Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
Pendant plusieurs siècles, l'histoire l'a décrite comme une grande séductrice, une charmeuse, qui a finalement pu devenir la femme du roi Henri VIII et reine consort. Près de 500 ans plus tard, qu'a réellement retenu l'histoire de son passage dans la monarchie anglaise? Ici Martin Labrosse, à Aujourd'hui l'Histoire, la vie de Anne Boleyn.
L'histoire est sur le point de se répéter. Pendant de nombreuses années, Anne Boleyn a été l'autre femme. Elle a dû se montrer piquante, se faire désirer, se démener pour charmer Henri VIII et capter son attention. Je crois qu'après tout ce temps, elle n'a pas réussi à négocier le passage du statut de maîtresse à celui d'épouse.
Extrait d'une série documentaire britannique qui s'intitule justement Henri VIII. Ça a été produit en 2020. Elle serait née aux alentours de 1501, Anne Boleyn. Elle se démarque par ses connaissances, sa culture. C'est d'ailleurs ce qui charmera le roi Henri VIII. Leur union ne durera que quelques années avant que le roi, qui espère avoir un fils pour lui succéder, ne se lasse et fasse accuser et exécuter Anne Boleyn. D'ailleurs, le fantôme de la reine a longtemps fait jaser à la Tour de Londres.
Une des plus impressionnantes manifestations du fantôme se produit toutefois dans l'hiver 1864. Une nuit, une sentinelle est retrouvée inconsciente. Accusé de s'être endormi à son poste, l'homme comparaît devant un tribunal militaire. Il raconte que, vers l'aube, il a vu sortir du brouillard une silhouette blanche. Un bonnet la surmontait, sans tête au-dessus, et elle se dirigeait vers lui. Après avoir fait les trois sommations d'usage, le soldat s'est approché de la forme, mais lorsque la baïonnette de son fusil a traversé celle-ci, un éclair s'est propagé le long du canon et lui-même s'est retrouvé assommé par le choc. Tout cela ressemblerait à une excuse bien trouvée. Si deux autres soldats ainsi qu'un officier ne témoignaient, après la déposition de l'accusé, avoir eux aussi aperçu le spectre par une fenêtre. Lorsqu'il s'avère que la forme, dans les quatre cas, a été vue juste sous l'ouverture de la pièce dans laquelle Anne Boleyn avait passé sa dernière nuit, avant son exécution, le tribunal choisit de relaxer la sentinelle.
Un extrait de l'émission « C'est curieux » diffusée par la RTS en Suisse. C'était le 1er février 2001. Pour retracer le destin de Anne Boleyn, personnage, pas juste un fantôme quand même, on vous rassure tout de suite, j'accueille Catherine Tourangeau et elle est historienne chargée de cours au Collège Hunsick. Bonjour!
Bonjour!
Alors, on va parler de ce personnage qui est encore enseigné aujourd'hui dans les cours d'histoire.
Heureusement.
Parlez-nous un peu de ses origines, d'où elle vient, de son milieu, Anne Boleyn, d'où ça part tout ça?
La famille d'Anne Boleyn est très importante pour comprendre un petit peu le personnage, comprendre sa place dans l'Angleterre, donc de la Renaissance, du 16e siècle. On pense souvent à tort que les Boleyn sont une famille un peu arriviste, des nouveaux riches qui sont encore en train d'établir leur place dans le royaume. Donc, on réfère souvent à leurs origines marchandes. C'est vrai pour le Moyen Âge, mais rendu à l'époque dont on parle, donc quand Anne Boleyn voit le jour au tout début du 16e siècle, les Boleyn sont une famille très bien établie. Donc, très riche, qui côtoie régulièrement les hautes sphères du pouvoir. Le père d'Anne Boleyn, notamment Thomas Boleyn, est un homme très, très cultivé, très intelligent, qui va réussir à avoir l'oreille d'abord de Henri VII Tudor, donc le père d'Henri VIII, le premier de la dynastie, puis de Henri VIII Tudor. Donc, c'est un homme très intelligent, comme je l'ai dit, un très bon diplomate aussi, donc va être envoyé sur des missions diplomatiques, mais aussi un grand sportif. Donc, ça va plaire beaucoup. Henri VIII va devenir un de ses proches conseillers et va être en très bonne position pour placer donc ses deux filles, Mary, qu'on connaît un petit peu moins, mais aussi Anne, donc dans l'échiquier politique.
Donc, quelle place elle va occuper au départ, Anne Boleyn?
Bien, d'abord, Anne Boleyn va être envoyée dans les cours de France quand elle est toute petite. Donc, d'abord à la cour de Marguerite de Habsbourg, donc dans ce qui est aujourd'hui la Belgique. Ensuite, à la cour de France, donc où elle va être demoiselle d'honneur. Elle va apprendre des manières, des façons de penser. Elle va entendre des idées qui ne circulent pas encore en Angleterre à l'époque. Sur le plan culturel, l'Angleterre, c'est encore un peu en arrière, si on veut, au 16e siècle. Elle va se faire, dans le fond, une culture, une intelligence, une tête aussi sur toutes sortes d'idées sociales, politiques, religieuses dans les cours européennes. Puis, au début des années 1520, son père va la ramener en Angleterre, où elle va entrer dans la cour de Henri VIII. Elle va devenir demoiselle d'honneur de Catherine d'Aragon, donc la première femme de Henri VIII.
Donc, c'est là où elle va inévitablement entrer en contact avec le roi, où elle va le croiser pendant un certain temps. Là.
Donc, on a beaucoup de sources sur cette période-là, mais les sources ont tendance à se contredire un petit peu ce qu'on imagine. Ce qui est le plus probable, c'est qu'elle ait rencontré le roi vers 1522-1523, mais un attachement semble se former vraiment seulement vers 1525-1526-1527. Donc, il y a quelques années qui passent avant que le roi, disons, la remarque. Vraiment.
Est-ce que le fait de la ramener, Anne, à un certain moment donné, à la cour d'Angleterre, est-ce que la famille avait des visées par rapport à ce que ça pouvait apporter, justement?
Ce qui est certain, c'est que Thomas Boleyn, aussi l'oncle de Anne Boleyn, donc le père et l'oncle de Anne Boleyn, qui était très présent à la cour, était très ambitieux aussi, donc visait certainement par Anne à acquérir encore plus de pouvoir, une plus grande présence à la cour. Après ça, c'est un peu difficile de juger de à quel point Anne a été complètement manipulée. Ce qui semble pas très clair, donc dans les sources, dans ce qu'on peut savoir, c'est à quel point Anne et les membres de sa famille voulaient qu'elle devienne la maîtresse du roi, ce qui est une position très fragile, qui peut venir avec beaucoup d'avantages, ouais, mais qui peut aussi se revirer très rapidement contre une femme.
On va écouter ensemble un extrait justement de cette série documentaire produite il y a quelques années sur Henri VIII, justement, qui porte sur l'influence de la famille Boleyn.
En 1521, après l'exécution du duc de Buckingham, Henri VIII saisit Penshurst et en fait un domaine royal. Le manoir devient sa résidence de prédilection. Il profite de ses séjours sur place pour fréquenter assidûment Anne Boleyn et les hommes de sa famille. Dans l'histoire d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, on a souvent tendance à croire que c'est elle qui tirait les ficelles. En réalité, l'affaire est plus compliquée. Le père d'Anne, l'ambitieux Thomas Boleyn, son oncle, le puissant duc de Norfolk, et son frère George sont à la manœuvre. Ce sont eux qui poussent Anne dans les bras du roi afin de favoriser leur propre ascension.
Alors, voilà pour l'influence de la famille Boleyn, mais quand même, à un certain point, Anne a fait ses choix aussi.
Je ne suis pas tout à fait nécessairement d'accord avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Là, c'est peut-être un peu controversé, mais oui, c'est ça. Anne n'était pas dépourvue de toute agentivité. Là. Elle comprenait comment ça fonctionnait à la cour. Elle comprenait qu'est-ce qu'une femme pouvait faire.
Elle
l'avait vu en France.
Oui.
Elle l'avait vu à la cour de Marguerite d'Autriche, de Marguerite de Habsbourg, pardon. Donc, elle était très au courant de ça. Ceci étant dit, évidemment, elle opérait dans un cadre profondément masculin. Mm-hmm. Et elle est très, très consciente du fait que le roi, à partir d'un certain moment, a été très charmé par elle, a commencé aussi à la courtiser. Si on met un petit peu des gants blancs, là, sans être très subtil non plus dans ce qu'il voulait. Ce qu'on peut voir un peu dans les années 1520, c'est une espèce de danse où Anne Boleyn essaie de garder l'attention du roi, mais pas non plus trop nourrir son ambition. Il y a même un moment où elle va quitter, elle va quitter la cour d'Angleterre pendant quelques mois pour aller à la campagne, possiblement pour éviter d'entrer trop en contact avec le roi, donc pour le repousser juste un petit peu. C'est ça, là, on n'est pas nécessairement dans la grande séductrice, très, très intéressée, très ambitieuse qu'on imagine trop souvent. En même temps, c'est sûr qu'elle doit composer avec l'influence de son père, de son oncle, dans une moindre mesure de son frère. Elle doit surtout composer avec l'espèce disons, d'appétit vorace du roi.
Oui, et le roi ne s'en cache pas beaucoup. Il y a des lettres qu'il documente, ça, beaucoup de lettres de Henri VIII à Anne. On va en écouter un extrait d'une de ces lettres, justement, qui a été donc reprise par la Fabrique de l'Histoire. C'était en 2019.
Je ne vous écris maintenant, ma petite mignonne, que pour savoir des nouvelles de votre santé, de votre bonheur, auquel je prends autant d'intérêt qu'au mien propre, priant Dieu qu'il lui plaise de nous réunir bientôt, car je vous assure qu'il y a longtemps que j'attends ce moment, lequel, quoi qu'il en soit, n'est certainement pas éloigné. Vu l'absence de ma meilleure amie, je ne puis faire moins que de lui envoyer en mon nom une pièce de chevreuil, comme un souvenir du cœur de Henri, prédisant que je vous servirai bientôt moi-même de régal, et plût à Dieu que ce fût dès à présent.
Et on le disait tout à l'heure, Anne Boleyn, elle met ses distances, elle veut... En fait, on entend, là, les intentions sont claires, mais de son côté, à elle, pourquoi elle n'y allait pas auprès du roi?
Parce que Anne, bon, c'était une femme ambitieuse, bien sûr, elle voulait faire sa place à la cour, mais elle était très consciente du fait qu'une maîtresse royale, et bon, Henri avait plusieurs maîtresses, c'était très connu, mais une maîtresse royale, une fois qu'elle avait produit un enfant, par exemple, ou une fois que le roi... se tanner un petit peu là, de sa présence, pouvait facilement être tassé un petit peu et perdre son influence. Donc, plutôt que de miser sur le court terme, si on veut, Anne va miser sur le long terme. Lorsqu'elle réalise qu'elle a l'attention du roi, évidemment, elle va refuser d'être sa maîtresse pendant quelques années. Quand le roi va finir par décider sur le conseil de ses proches pro-réforme religieuse, de couper avec Rome et de prononcer donc, l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon pour marier Anne Boleyn, c'est seulement à ce moment-là qu'elle va décider de se donner, là, si on veut, pour reprendre un petit peu le langage de l'époque, au roi. Donc, essentiellement, dans le calcul d'Anne Boleyn, c'est « je vais être la reine ou rien du tout ». Il y a certains historiens qui suggèrent qu'elle ne pensait même pas que le roi allait aller jusque-là, qu'il allait vraiment en faire sa reine. Elle était certainement déterminée à ne pas devenir sa maîtresse.
Une fois le mariage réglé, quel rôle elle va jouer? C'est un peu particulier pour l'époque, non? Parce qu'elle a déjà des connaissances politiques, elle est très, très informée. Et ça va se poursuivre, ça.
Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Tant que Henri est dans une dynamique, dans le fond, de courtisage d'Anne Boleyn, tant qu'il essaie d'en faire sa maîtresse, Henri, c'est un chasseur, hein, donc disons que la chasse lui a pas vraiment déplu, il était très intrigué, très admiratif devant son intelligence, sa grande culture, devant ses idées sur la politique, sur la religion, sur la diplomatie. Une fois qu'elle devient son épouse, par contre, Anne Boleyn n'est plus appelée autant à discourir, à avoir des idées. Son unique but, c'est de produire un héritier, de préférence, évidemment, un héritier mâle. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'elle le voit. Elle voulait devenir reine, notamment pour avoir une influence en matière politique, notamment pour influencer la véritable gouvernance. Et c'est là que le bât blesse. C'est ici, à mon avis, que naît, dans le fond, la chute d'Anne Boleyn. C'est ici qu'on trouve les éléments qui vont mener à sa chute quelques années seulement après
le mariage. Oui, parce que ça a été très court.
C'est très court. Donc, il se marie à l'été 1533. Élisabeth, donc la fille d'Anne Boleyn, va naître en septembre 1533. Puis à partir de mars 1536, c'est déjà la fin, là. Donc, c'est très, très rapide.
Bon, est-ce que c'est le roi lui-même qui s'est lassé à un moment donné et qui s'est dit, bon, c'était peut-être pas le bon choix, ce mariage-là? Comment ça s'est opéré?
Il y a deux grandes interprétations aussi. Donc, la première interprétation avec laquelle je suis pas nécessairement d'accord, c'est que quand Anne a eu Anne a eu Élisabeth. Par la suite, elle aurait eu une série de fausses couches. On en connaît une, certainement, probablement trois. Donc, elle aurait eu une fausse couche au début de l'année 1536. Et à ce moment-là, le roi aurait décidé que, bon,
c'en
finalement, c'est assez. Elle ne me donnera pas de fils. Elle se mêle de politique en plus. Et là, il demanderait, donc, selon cette interprétation, à son principal conseiller, Thomas Cromwell, de se débarrasser, trouver une façon de se débarrasser, finalement, de Anne Boleyn. On ne pense pas nécessairement à l'exécution, là, à ce moment-là.
Ouais.
Ça, c'est interprétation 1. Interprétation 2 mettrait plutôt le blâme sur Thomas Cromwell lui-même, donc le conseiller du roi, donc, qui lui aussi est un homme très ambitieux, très puissant, mais qui sait aussi que sa position est fragile donc, au sein de l'entourage du roi et qui va se retrouver en conflit avec Anne, conflit politique sur la gestion, c'est pas rien quand même, mais sur la gestion des finances du royaume. Donc, on a dissous les monastères avec Rome. On se retrouve avec une grande quantité d'argent. Anne veut mettre cet argent-là dans les soins pour les plus pauvres, donc pour créer de l'emploi. Cromwell veut enrichir l'État anglais. Les coffres d'anglais. Mm-hmm. Et Anne va réussir à faire passer des lois qui vont à l'encontre des intérêts de Thomas Cromwell. Ce serait à ce moment-là que lui déciderait quel est un obstacle et que ça n'a pas de bon sens qu'une femme se mêle de politique à ce point-là.
C'est d'ailleurs, il en est question, bien sûr, dans ce documentaire dont on vous parle depuis le début de cet épisode. C'est Tracy Borman qui est l'historienne derrière ce documentaire de 2020 consacré au roi Henri VIII. On en écoute un extrait.
Quand on pense à Henri VIII, on imagine un monarque au pouvoir absolu. Mais la lettre conservée ici à la Bibliothèque nationale nous donne une toute autre image de lui. Elle montre à quel point les hommes qui l'entourent tirent les ficelles. Il est probable qu'Henri VIII ait donné ordre à Cromwell de le libérer d'Anne Boleyn. En revanche, il n'est pas du tout certain qu'il ait eu cette solution en tête. Il envisageait peut-être l'annulation du mariage. Mais Cromwell voulait se débarrasser d'Anne Boleyn de façon bien plus définitive. Et il l'a fait accuser d'adultère non pas avec un homme, mais cinq. C'est pourquoi il parle d'une abomination dans cette lettre. Et Henri VIII prend cette histoire pour argent comptant. Cromwell lui présente ce témoignage et le roi semble le croire. En tout cas, cela l'arrange. Il va donc confirmer l'ordre d'exécuter Anne.
Alors, on entend que Cromwell avait pas mal de pouvoir là, de persuasion auprès du roi.
Oui, absolument. Donc, Cromwell jouit d'un énorme pouvoir, mais comme je disais, c'est un pouvoir qui peut partir rapidement. Ouais. On sait qu'Henri VIII s'est déjà débarrassé de proches conseillers dans le passé. Cromwell a participé à ces efforts-là. Évidemment, il ne veut pas en être la victime. Donc, dans sa tête, ce qu'on peut supposer, c'est qu'il se dit « c'est moi ou la reine ». Donc, c'est moi ou Anne. On va s'arranger pour se débarrasser de Anne. Comment on fait ça? Ben c'est l'espèce de scénario classique. On va accuser la reine d'avoir des relations extra-conjugales. Ouais. Comme on l'a entendu, pas avec un seul homme, hein, avec cinq. On va l'accuser aussi d'inceste avec son frère. Donc, Cromwell va un peu documenter toutes sortes de trucs un peu salace, si on veut, sur la vie de la reine, présenter ça au roi au printemps 1536. Et c'est à ce moment-là que Henri va dire « OK, on l'arrête, on fait le procès, voilà. »
Et même ces accusations-là, il y en a qui sont allées dans toutes sortes de directions. On a même entendu des histoires de sorcellerie. C'est pas le cas, là.
Les accusations de sorcellerie, c'est vraiment ici de la rumeur de l'époque. Anne n'a jamais été accusée formellement de sorcellerie. Donc, ça ne fait pas partie des accusations. Exactement. Donc, ça fait partie du langage de l'époque. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'une femme? On l'accuse, bon, évidemment, d'adultère, d'infidélité. On va la couvrir d'un scandale sexuel et l'accuser de sorcellerie. Alors, c'est l'espèce de scénario classique là, pour le 16e siècle. Éventuellement, donc, Anne va être soumise à un procès. On s'entend que les dés sont pipés, là, c'est un procès complètement bidon. Elle ne sera pas reconnue coupable, toutefois, d'infidélité au roi. Ce serait trop humiliant pour le roi. Elle va être reconnue coupable de haute trahison. Donc, c'est sur ces charges-là qu'elle va être exécutée.
Au final, donc, elle sera exécutée en 1536. Combien de temps ça a pris? Parce que là, on sent un mouvement de... Est-ce qu'on peut appeler ça de la réhabilitation ou on veut un peu départager vraiment qui elle était, Anne Boleyn? Combien de temps ça a pris avant qu'on en arrive là?
Ça a été compliqué. Hein? L'héritage de Anne Boleyn est des plus compliqués aujourd'hui. C'est ironiquement la mieux connue des femmes d'Henri VIII, mais en même temps la plus méconnue. Parce qu'on est vraiment tiré entre deux extrêmes. Donc, la pauvre femme qui a été manipulée par sa famille. Ouais. Donc, c'est généralement la thèse qui a été avancée, notamment par des historiens protestants, hein, donc, et par donc, les groupes féministes, plutôt des années 70-80, par exemple, et la grande séductrice, donc sans vergogne, prête à charmer le roi pour obtenir des faveurs. La réalité, c'est que Anne décline. Anne est exécutée. Elle est remplacée quelques jours plus tard seulement par Jane Seymour, donc la troisième femme de Henri VIII. Dès lors, s'engage une campagne de salissage, une campagne de propagande visant à diminuer Anne dans l'opinion publique, à la faire disparaître, en fait, du récit anglais. Évidemment, Henri VIII, même si c'est un champion de la propagande, il ne peut pas maîtriser toute l'opinion publique anglaise. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs qui commencent à circuler sur Anne Boleyn. Les groupes plus protestants qui voient en elle une championne vont évidemment essayer de redorer son image. Les groupes catholiques, on peut l'imaginer, vont se retourner contre elle. Bien sûr, donc, ça monte vraiment à l'époque. Hein, donc, cette espèce de tension-là. Henri VIII, ce qu'il n'avait pas vu venir, évidemment, c'est que le principal héritage de Anne Boleyn, ça allait être sa fille, Élisabeth, qui devient reine, donc, après son jeune frère Édouard, après sa sœur Mary, et qui va mener un règne vraiment spectaculaire, donc qui va être un âge d'or pour l'histoire de l'Angleterre, qui va vraiment confirmer le passage de l'Angleterre aussi à l'Église protestante, donc au protestantisme plutôt qu'au catholicisme. Donc, Anne Boleyn, si on veut, par le biais d'Élisabeth, s'assure une place donc dans l'histoire britannique, dans la mémoire collective britannique. Bon, place contestée, hein, comme je l'ai dit. Ce qu'on voit vraiment depuis plusieurs années, c'est qu'on relie des sources, on va un petit peu réinvestir l'histoire, et de plus en plus, ce qui émerge vraiment, c'est le côté politicienne de Anne Boleyn, qui était inconcevable, donc au 17e siècle, par exemple, ou même au 18e, 19e. Une femme en position de pouvoir, c'est pas naturel, c'est pas censé arriver. On peut pas imaginer qu'une femme de l'époque se soit autant impliquée en politique, et pourtant, c'était vraiment ça.
Et c'est ce qui fait qu'on enseigne encore le passage très bref de Anne Boleyn.
Eh oui, c'est pas parce qu'on reste au pouvoir pendant très, très longtemps qu'on a nécessairement un très grand impact. Mm-hmm. On peut avoir une vie très courte comme celle de Anne Boleyn et finalement avoir énormément d'influence.
Qu'est-ce qui aurait été le legs? Est-ce que c'est vraiment la transition religieuse? C'est vraiment ça, son impact principal qu'elle aura eu?
Bien, c'est sûr que c'est quelque chose quand même de changer complètement l'Église d'un
pays. Et ça sera fait même jusqu'après sa mort.
Ça va continuer après sa mort. Bon, évidemment, ce n'est pas Anne Boleyn elle seule qui a mené au changement de l'Église anglaise du catholicisme au protestantisme, mais elle y a certainement contribué beaucoup. Elle voyait dans la religion un moteur de changement social, hein, donc d'où son investissement dans les causes caritatives, notamment. Donc, elle va changer... Elle va contribuer à faire changer la religion de tout un pays, ce qui n'est pas petit quand même, donc un changement assez important. Elle va aussi, d'une certaine façon, transformer la façon dont on pense, ou dont certains pensent certainement, dont certains conçoivent le pouvoir exercé par une femme. Il y a un mot en anglais, « queenship », qui n'existe pas vraiment en français, qui va se construire graduellement à partir du 16e siècle. Dans les siècles qui vont suivre, on va voir certaines femmes accéder à la couronne de plusieurs pays. Anne Boleyn s'inscrit un peu dans cette nouvelle tradition qui, comme je disais, entre en contradiction avec les modèles qu'on a à l'époque, avec la façon de parler du pouvoir, mais qui va établir des précédents très importants jusqu'à la reine Victoria, si on veut, et évidemment Élisabeth II, là, plus récemment.
Oui, plus récemment, tout à fait. Très intéressant, donc, ce survol de la vie d'Anne Boleyn. Je rappelle que mon invité est Catherine Tourangeau, historienne, chargée de cours au Collège Hunsick, ici à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Ici Martin Labrosse, au nom de toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci d'avoir été là et à très bientôt.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.